Le but de cette année, bonsoir. Le but de cette année, c'est d'aller découvrir en fait l'amplitude de la morale chrétienne. Parce que plus j'avance, plus je me rends compte que il y a un enjeu de formation sur ce sujet-là, qui est un enjeu majeur, précisément parce qu'on entre dans une période. Alors c'est vrai depuis un certain temps, mais on entre dans une période qui va être très compliquée en termes de morale. À la fois en termes de société, parce qu'il y a toutes les grandes questions d'écologie. Et l'écologie, en fait, derrière, c'est des enjeux sociétaux très, très lourds, parce que ce n'est pas juste les réchauffements. Derrière, c'est des populations qui sont mises en très grande précarité. Et donc, il y a l'enjeu de la justice sociale. Et puis, on voit aussi un très grand enjeu de ces problématiques, un peu de ce qu'on appelle les guerres de civilisation, c'est-à-dire de confrontations très fortes de cultures qui sont très différentes. Et puis aussi, on voit dans notre pays une forme de fragilisation de ce qui faisait son tissu jusque-là, qu'on appelle le tissu chrétien. Je vous invite à lire le dernier livre de Jérôme Fourquet, qui est le grand spécialiste, qui est le responsable de l'INSEE. Donc lui, il regarde les statistiques. Voilà, et un de ses grands dadas, c'est de dire que le christianisme n'existe plus sociologiquement en France. Voilà, on a disparu. Voilà, on est un petit groupe très, très limité. Voilà, il reste ce qu'il appelle le christianisme zombie, c'est justement cette culture un peu historique, mais ce christianisme zombie, il se rétrécit chaque année. Et aujourd'hui, en gros, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il existe encore en Vendée, voilà, en simplifiant. Voilà, mais le reste de la France n'a même plus ce christianisme zombie. Et donc, en fait, on est confronté à ce délitement de ce qu'était le tissu jusque-là. Et la question, du coup, c'est que nous, on se retrouve dans ce monde-là. C'était un monde où, grosso modo, on avait les mêmes valeurs, la même manière de concevoir la vie. Et maintenant, ça n'est plus vrai. Et donc, à un moment, il faut bien se former, parce que sinon, on fait des caricatures et on n'est pas bon. Alors, je vous donne deux grandes caricatures de la morale. La première, c'est celle qu'on a en tête, qu'on perçoit comme celle du passé, alors qu'elle est très dans le présent. C'est, on va dire, la morale de la loi, qui se résume au titre, vous savez, cette série télévisée, « Fais pas ci, fais pas ça ». Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, la série. Voilà. Et au fait, comme si la morale chrétienne, c'était tu n'as pas le droit de coucher avant le mariage, tu n'as pas le droit de prendre la pilule, tu n'as pas le droit d'avorter, tu n'as pas le droit de manger de viande le vendredi, tu n'as pas le droit, etc. Tu n'as pas le droit. Et puis, tu as le droit, c'est-à-dire tu es obligé d'aller à la messe le dimanche, tu es obligé d'aller prier, tu es obligé de, etc. Et au fond, on retrouve finalement cette idée de permis défendu. En des mots modernes, on dirait halal haram, vous voyez, permis défendu. Et en fait, vous voyez, c'est une connotation en fait assez musulmane. Je vais y revenir. Dans cette morale-là, eh bien, la morale, c'est une forme de code de la route. Et où je suis dans ma voiture, j'ai des capteurs partout. Et donc, les capteurs vérifient comment je pose mes mains, à quelle vitesse je vais, si je prends bien le tournant, si je parle à mon voisin ou pas, si je regarde dans le rétro, comment je regarde, etc. etc. Et puis, donc, il y a un espèce de radar qui vérifie tous les capteurs. Et puis, donc le radar, c'est Dieu, qui vérifie tous les capteurs. Et puis, si par hasard, je gruge sur un capteur, à ce moment-là, je vais voir le policier, ça c'est le prêtre, qui va me donner l'amende, c'est la pénitence. Et voilà, et si je fais trop de fautes, à un moment, retrait de permis, je vais en enfer. Vous voyez ? Voilà, on peut comprendre, oui, voilà, on peut comprendre la loi, la morale un peu comme ça. Sauf que, en fait, c'est extrêmement étouffant. Vous savez, on parle aujourd'hui de cette question, justement, de faire ça, en fait. Alors, pas sur la voiture, mais avec les caméras de surveillance. Vous voyez, on met des caméras de surveillance partout, en disant, comme ça, on va éviter les violences conjugales, on va éviter les violences dans le... etc. Sauf qu'on est tout le temps surveillé. Tout ce qu'on fait, tout le monde le sait. Il y a un moment, on ne peut plus être nous-mêmes. Il y a un moment, on a l'impression d'être transpercé dans notre conscience et que même quand on pense, on est tétanisé de ce que va penser l'autre, mais c'est vrai aussi par rapport à Dieu. Je l'ai vu, par exemple, cette question-là, dans une communauté nouvelle, dont je ne dirai pas le nom, il y avait des jeunes et une dame qui se rend compte qu'il y avait un jeune qui avait une revue pornographique sous son lit. Cette dame, elle hésite à aller voir le jeune et puis elle se dit « Oh, ce soir, il y a la prière ». Alors, elles font la prière. Et puis, au milieu de la prière, vous savez, il y a ce qu'on appelle les paroles de connaissance. C'est-à-dire, voilà, le Seigneur dit que. Et cette dame, elle dit, voilà, le Seigneur dit à un jeune qui est dans cette assemblée, qui a 15 ans, qui, etc., etc., qu'il a une revue pornographique sous son lit et donc qu'il doit la jeter. Et qu'il en est très attristé, etc. Le jeune, en sortant de là, il s'est déclaré athée. Parce que tout à coup, il s'est senti voyez, complètement étouffé par un Dieu qui le surveille tout le temps. Et du coup, il a dit, moi, jamais, jamais je pourrais survivre comme ça. Alors, il se trouve qu'il y a un philosophe qui a dénoncé ça, c'était Sartre. Sartre, il a passé une nuit à méditer sur le psaume 139. Je ne sais plus si je vais raconter ça. Voilà. Donc, le psaume 139, on pourrait le voir. C'est un psaume qui est magnifique. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je suis assis ou levé. Tu découvres ma pensée de loin. Tu m'observes quand je suis en marche ou couché. Et toutes mes voix te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. En avant et en arrière, tu m'entoures et tu mets ta main sur moi. Je continue. Où aller loin de ton esprit? Où fuir loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le Shéol, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux confins de la mer, là encore, ta main me conduira et ta droite me saisira. Et je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit sera la seule lumière qui m'entoure. Eh bien non, la ténèbre pour toi n'a pas d'obscurité. Pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alors vous voyez, ce poème, il est magnifique parce qu'il dit que le Seigneur est là, quel que soit l'endroit où on est. Mais Sartre, il l'a interprété de manière négative. En gros, il dit, quel que soit ce que je fais, etc., Dieu me surveille. Et si Dieu me surveille, eh bien, c'est insupportable. Eh bien, un Dieu comme ça, je ne le veux pas, et donc je me déclare athée. Et donc, c'est en méditant sur ce psaume que Sartre s'est déclaré athée. Vous voyez, cette vision comme ça, un peu très sur la loi, très moralisatrice de l'Église, eh bien, la plupart des médias l'utilisent à fond. À chaque fois qu'il y a un enjeu de, on va dire, de morale, eh bien, les médias nous disent, je ne sais pas si vous entendez, c'est, alors si vous êtes pour le mariage pour tous, eh bien, quittez l'Église. Si vous utilisez la pilule, quittez l'Église. Si vous, etc., quittez l'Église, toujours en permanence. Parce que leur schéma de pensée, il est bien celui-là, permis, défendu. Si vous n'êtes pas dans ce qui est permis et si vous êtes dans ce qui est défendu, alors vous n'avez rien à faire à l'Église et donc vous devez partir. Donc notre société, notre culture nous renvoie à ça, à ce côté Big Brother. Alors l'image qu'on peut donner, c'est, vous voyez, je vous ai donné l'image du, l'image de, voilà, mais vous voyez, c'est ah oui, pardon, forcément. Voilà, c'est Love Story. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Love Story. Cette émission comme ça, où des gens se font enfermer dans une pièce. Et puis pendant, je ne sais pas combien de temps, un mois, on les filme quoi qu'ils fassent. Voilà. Je me souviens quand c'est arrivé, la première fois que je l'ai vu, moi j'étais étudiant, j'étais en Suède. Et il y avait en Suède, ils proposaient l'émission américaine. Et je me suis dit, mais c'est des malades, jamais ça n'arrivera en France. Voilà. Voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles je me suis trompé beaucoup. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a tout ça en tête? C'est parce qu'effectivement, ça a été très présent dans l'Église. Alors, il faut le comprendre. C'est important de comprendre l'histoire de ce point de morale. Il se trouve que dans le XIVe siècle, vous voyez donc, au bout de 1400 ans de christianisme, pendant 1400 ans de christianisme, la morale chrétienne n'était pas du tout celle-là. Au XIVe siècle, vous avez la Grande Peste. La Grande Peste, entre un quart, un tiers, peut-être même dans certaines zones, on va jusqu'à 60% de la population qui meurt. D'accord ? Donc en Europe, c'est vraiment un drame absolu. Là-dessus, vous rajoutez la guerre de Cent Ans. Et au fond, la France, qui est le gros pays, mais au fond toute l'Europe, du coup, se retrouve décapitée de son élite. Avec tout à reconstruire, tout est détruit. Et en fait, il faudra énormément de temps pour reconstruire une civilisation qui a été coupée quasiment à la racine. La France ne retrouvera la population d'avant la peste que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Vous voyez, il faudra 300 ans pratiquement pour qu'elle retrouve sa population. Et donc, en fait, cette peste, alliée à la guerre de Cent Ans, alliée à tout un tas d'autres problématiques, mais vous voyez qui s'accumulent parce que voilà, on n'a pas les gens pour gérer les choses, eh bien, ça fait que finalement, on se retrouve dans l'Église avec des problèmes internes très complexes. Et du coup, une fragilité, notamment au niveau moral. Je rappelle le roi Alexandre VI, mort en 1503. Il a 3 enfants, il a d'innombrables maîtresses, il a couché avec sa propre fille. Des histoires quand même incroyables. Vous voyez, c'était le pape de l'époque, le pape. D'accord. Voilà. Et donc, l'Église voit bien qu'elle n'y arrive pas et qu'il y a un moment, il va falloir qu'elle se réforme. Sauf que la réforme, c'est compliqué quand justement toute la société est en fragilité. Alors elle va tenter donc un concile en 1512, le concile Latran V, et elle va donc proposer toute une réforme. Ça va être un échec. Et en 1517, Luther arrive. Et Luther va mettre des coups de boutoir à l'intérieur de l'Église, parfois sur de mauvaises raisons, mais en même temps avec une critique réelle en termes de morale. L'Église va mettre du temps à réagir parce que, encore une fois, voilà, c'est compliqué. Et finalement, ça n'est que en 1545 qu'on va avoir un concile très, très, très important pour l'Église qui a lieu dans la ville de Trente, le concile de Trente. Et dans ce concile, eh bien, on se penche sérieusement, parce que là, on est dans une situation dramatique, on se penche sérieusement sur la réforme de l'Église. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on regarde les prêtres. Les prêtres ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas formés, ils ne connaissent rien. Au point que, par exemple, Sainte-Jeanne de Chantal, vous voyez, un petit peu après, même autour de l'an 1600, quand elle allait se confesser, elle prenait la formule d'absolution, parce que le prêtre ne la connaissait souvent pas. Et donc, si elle voulait être absoute, il fallait quand même que le prêtre puisse dire... voilà. Donc, il faut imaginer à quel point ça n'allait pas. Et donc, ce concile va créer les séminaires, et donc on va avoir apparaître plein de séminaires. Et puis pour former de manière rapide et efficace, parce qu'on n'a pas l'élite, il nous manque de l'élite, eh bien on va faire ce qu'on appelle les manuels. Les manuels sont des abrégés, si vous voulez, sont des catéchismes, plutôt améliorés quand même, mais enfin ça reste des catéchismes qui sont simples et efficaces pour des prêtres qui ne connaissent rien. Et donc, vous allez avoir un théologien qui s'appelle Juan Azor, qui, en 1600, va proposer un manuel de morale pour prêtres qui n'y connaissent rien. Et ce manuel, eh bien, il va être un manuel qui va rétrécir énormément la morale chrétienne en la réduisant à la loi, si vous voulez. Alors c'est une simplification un peu, mais en gros, c'est ça. Ce manuel, il va être diffusé dans toute l'Europe, et puis d'autres vont le copier, vont le retravailler, etc. Et ça fait que, eh bien, on va avoir du coup une morale qui va être extrêmement de la casuistique, c'est-à-dire des cas. Voilà. Et donc, en gros, quand vous alliez vous confesser, c'était ça le but. Vous voyez, vous allez vous confesser, alors le prêtre dit, j'ai fait ça, alors attendez, je regarde si c'est dans ma liste. Oui, c'est un péché, donc ça sera 3 pater et 2 ave. Et puis j'ai fait ça, alors attendez, je regarde, alors là c'est 4 pater et 5 ave, etc. Et donc, voilà. Et en fait, finalement, ça va lié aussi un peu à un durcissement de la société, etc., ça va être très, très présent au XIXe siècle. Ça ne veut pas dire que la morale n'est pas importante, on va le voir. Hein. Vous voyez, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. La morale, la loi est essentielle, mais elle ne peut pas être le tout de la morale. Je ne peux pas présenter la morale chrétienne comme il y a des choses que je dois faire et il y a des choses que je ne dois pas faire. Ça serait trop court. Je vous ai mis une petite vidéo que je trouve sympa pour vous faire sentir le truc. Alors, c'est en espagnol, sous-titré en anglais, mais et c'est de très mauvaise qualité. Mais vous comprendrez assez bien, si vous pouvez éteindre.
Ave Maria Purissima.
Attendez.
Bienvenido al servicio de confesión automática de la Iglesia Católica. Por favor, para comenzar, diga su nombre.
No se asuste, es un nuevo servicio que hemos instalado.
Je le remets.
Ave Maria Purissima.
Bienvenido al servicio de confesión automática de la Iglesia Católica. Por favor, para comenzar, diga su nombre.
No se asuste, es un nuevo servicio que hemos instalado. La falta de vocaciones, ya sabe. Pero no se preocupe, la confesión tiene la misma validez. Ande, pruebe, diga su nombre.
Me llamo Anchón. Anchón Urrutia.
Su nombre es Anchón Urrutia. Indique, por favor, el pecado que ha cometido.
Adulterio.
No le he entendido. Repita, por favor.
Adulterio.
Ha seleccionado adulterio. ¿Es correcto, señor Urrutia?